Astrolabe. C'est évidemment pour elle que je m'apprête à détourner cet avion. Elle serait horrifiée à cette idée. Tant pis. Il y a des femmes qu'il faut aimer malgré elles et des actes qu'il faut accomplir malgré soi. Pour autant, il serait excessif d'affirmer que si mon histoire d'amour avait réussi, je ne serais pas ce hijacker du dimanche. D'abord, parce que la réussite d'une histoire d'amour, je ne sais pas ce que c'est. Quand l'amour peut-il être considéré comme réussi? Ensuite, parce que, même en cas de succès amoureux indubitable, je ne garantis pas que je ne consacrerai pas ce dimanche à cette opération. Lorsqu'Astrolabe apprendra ce que j'ai fait, elle me méprisera, me haïra, maudira le jour de notre rencontre, détruira mes lettres ou, pire, les apportera à la police. J'ai la certitude qu'aucun homme n'aura occupé autant ses pensées. Ce n'est pas si mal. J'ignore ce qu'est la réussite d'une histoire d'amour, mais je sais ceci. Il n'y a pas d'échec amoureux. C'est une contradiction dans les termes. Éprouver l'amour est déjà un tel triomphe que l'on pourrait se demander pourquoi l'on veut davantage. Sans que ce fût diagnostiqué comme anorexie, j'ai vécu à 16 ans la disparition de l'appétit. En 2 mois, j'ai perdu 20 kilos. Un garçon de 1,75 m pesant 40 kilos est un spectacle repoussant. Cela dura une demi-année et puis je recommençais à me nourrir. Ce phénomène eut ceci de curieux qu'il me révéla le miracle des facultés dont je fus privé, entre autres cette fabuleuse capacité à cristalliser autour d'une personne. À la faveur de ces 6 mois d'absolue frigidité, je ne risque pas d'oublier que la simple réalité du sentiment amoureux est une grâce, un état d'éveil absolu où toute autre réalité est abolie. La commande m'attendait chez le libraire. J'emportais chez moi les livres d'Aliénor. Je les lus à m'en arracher les organes de la lecture qui, dans le cas de ces romans, étaient difficiles à identifier. Dévorer l'œuvre d'un auteur pour conquérir son escorte, ce n'était pas banal. Ensuite, j'écrivis à l'intention de Mademoiselle Malaise une épître telle qu'elle la partagerait obligatoirement avec sa protectrice. Je laissai mes coordonnées en bas de page et le prodige eut lieu. Astrolabe me téléphona. « Quelle lettre ! » dit-elle avec admiration. « Ce n'est que l'expression de mon émerveillement. Aliénor m'a demandé de la lui lire à haute voix. Elle voulait s'assurer que ses yeux ne l'avaient pas trompée. J'aimerais, pour le motif identique, que vous me lisiez ces livres à voix haute. » Je l'entendis sourire au bout du fil. EDF nous autorise-t-elle à vous inviter à prendre le thé chez nous sans que le chauffage y soit pour quelque chose? Je débarquai chez elle le samedi suivant à 17h. Boire du thé, en compagnie de la dame de mes pensées et d'une romancière neuneuse, s'avéra une expérience complexe. Il régnait dans l'appartement un froid à peine moins intense qu'auparavant. « Vous ne vous servez pas de mon chauffage ?» constatai-je. « Dénoncez-nous à EDF. Je ne vous propose pas d'enlever votre manteau. Croyez-en notre expérience, mieux vous gardez la chaleur que vous avez accumulée. » J'offris une boîte de macarons la durée. Au moment de me servir le thé, Astrolabe me proposa de prendre un gâteau. Je sentis que c'était un ordre. « C'est maintenant ou jamais, » précisa-t-elle. Je compris mieux quand le carton la durée arriva entre les mains d'Aliénor. Après avoir grogné d'extase à plusieurs reprises, elle se mit à enfourner les macarons les uns après les autres. J'avais choisi un assortiment d'une vingtaine de pièces de saveurs différentes. À chaque goût nouveau, Aliénor barissait, attrapait le bras d'Astrolabe pour attirer son attention et ouvrait grand la bouche afin de lui montrer la couleur du gâteau responsable d'une telle transe. J'aurais dû opter pour la boîte de 30, remarquai-je. 30, 40, elle mangerait tout de toute façon, n'est-ce pas, Aliénor? L'écrivain opina avec enthousiasme. Quand elle eut fini de manger, elle observa le carton vert jade avec admiration. Mes questions sur ses livres ne semblèrent pas l'atteindre. « Aliénor ne répond pas quand on l'interroge sur son œuvre, » dit Astrolabe. « Elle ne comprend pas le principe de l'explication de texte. » Elle a raison. J'étais un peu gêné de parler d'elle à la troisième personne en sa présence. Aussi, sa présence était relative. Elle ne nous écoutait pas. « A-t-elle vraiment lu ma lettre ? » demandai-je. « Bien sûr. Ne soyez pas frustré. Aliénor entend les compliments. » Un jour que je lui avais sorti tout un chapelet d'éloges sur un de ses paragraphes, elle a fermé les yeux. « C'est quoi cette réaction ? » ai-je dit. « Je me blottis dans tes mots, » a-t-elle répondu. « C'est joli. Et puis moi, les compliments que l'on fait à Aliénor me remplissent de joie. » Cette phrase ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd. Je lâchai une salve du dernier laudatif sur le style de la romancière. J'en rajoutai un peu, mais c'était pour la bonne cause. Astrolabe ne cachait pas le plaisir que je lui donnais. C'était un spectacle exquis. Lorsque ma performance fut terminée, la dame de mes pensées applaudit. « Vous êtes le meilleur louangeur que je connaisse. Aliénor est enchantée. » J'en doutais. Le nez sur le motif, la durée, la romancière consacrait son énergie à loucher. « C'est parce que ça vient du fond du cœur, » déclarai-je. « Vous êtes un critique littéraire beaucoup plus doué que le bonhomme dont vous portez le nom. »« Vous m'en voyez rassuré, » dis-je, étonné qu'elle ait retenu mes propos. « Comment avez-vous atterri chez EDF ?» Ravi de sa curiosité à mon endroit, je me lançai dans la courte biographie du type passionné de philologie qui, pour autant, n'avait pas envie de devenir professeur. En 1996, EDF, alors au fait de sa puissance, octroya un budget à la publication d'un recueil de nouvelles littéraires illustrant diverses utilisations inconnues de l'électricité. J'y fus embauché, à 29 ans, en tant que directeur de publication. Dans une maison d'édition, une telle place eût fait de moi un mandarin. Chez EDF, j'avais plutôt l'air d'une personne déplacée. Quand le budget ne fut plus reconduit, je demandai à ne pas être limogé. On me trouva alors ce fromage qui est encore mien à ce jour. « C'est un beau métier, » dit Astrolabe. « Vous rencontrez des gens de toutes sortes ?»« J'ai plutôt affaire à des misères sans nom, à des étrangers qui croient que je veux les expulser, à des cas sociaux exhibant leur pauvreté comme pour me la reprocher, à des assistantes de romancières agacées de ma sollicitude. » Elle sourit. Aliénor réclama du thé. Elle se mit à en avaler tasse sur tasse. Je compris pourquoi Astrolabe avait prévu une théière aussi cyclopéenne. Aliénor ne fait pas les choses à moitié, commenta-t-elle. Quand elle boit du thé, c'est au finish. Le résultat ne tarda pas. L'écrivain alla aux toilettes, en revint, y retourna, en revint, etc. C'était un cas intéressant de mouvement perpétuel. Chaque fois qu'elle disparaissait, j'en profitais pour poser quelques jalons. Je voudrais tellement vous revoir. Ou... Vous me hantez, ou, même avec trois parkas les unes sur les autres, vous êtes fine et gracieuse, ou carrément lui prendre la main. Mais le retour précipité d'Aliénor ne laissait jamais à la jeune femme le temps de dépasser le stade de la gêne et de répondre. J'aurais voulu suggérer à l'imparable romancière de s'installer aux chiottes pendant une heure, à quoi bon nous rejoindre si c'était pour y retourner aussi sec? Je soupçonnais une part de perversité enfantine chez ce personnage. « Vous ne parlez pas beaucoup, » finis-je par dire à Astrolabe. « Je ne sais que vous dire. Ça va, j'ai compris. »« Non, vous n'avez pas compris. » Je notai mon adresse sur un bout de papier. Je savais qu'elle l'avait déjà, mais on n'est jamais trop prudent. « Peut-être trouverez-vous la réponse par écrit, » dis-je avant de partir. Tomber amoureux l'hiver n'est pas une bonne idée. Les symptômes sont plus sublimes et plus douloureux. La lumière parfaite du froid encourage la délectation morose de l'attente. Le frisson exalte la fébrilité. Qui s'éprend à la sainte luce en court 3 mois de tremblements pathologiques? Les autres saisons ont leurs minauderies, bourgeons, grappes et feuillages où engouffrer ses états d'âme. La nudité hivernale n'offre aucun refuge. Il y a plus traître que le mirage du désert. C'est le fameux mirage du froid. L'oasis du cercle polaire, scandale de beauté rendu possible grâce à la température négative. L'hiver et l'amour ont ceci de commun qu'ils inspirent le désir d'être réconfortés d'une telle épreuve. La coïncidence de ces deux saisons exclut le réconfort. Soulager le froid par la chaleur écœure l'amour d'une impression d'obscénité. Soulager la passion en ouvrant la fenêtre sur l'air vif envoie au tombeau en un temps record. Mon mirage du froid s'appelait Astrolabe. Je la voyais partout. Les interminables nuits hivernales qu'elle passait à grelotter dans son antre sans chauffage, je les vivais mentalement avec elle. L'amour interdit la fatuité. Au lieu d'imaginer le feu que mon corps aurait pu donner au sien, je dévalais les degrés avec la dame de mes pensées. Il n'y avait pas de limite à la brûlure glacée que nous pouvions atteindre ensemble. Le froid n'était plus une menace, mais une puissance impérieuse qui nous animait, qui parlait en son nom. « Je suis le froid, et si je règne dans l'univers, c'est pour un motif si simple que nul n'y a songé. J'ai besoin qu'on me ressente. C'est le besoin de tout artiste. Aucun artiste n'a si bien réussi que moi. Tout le monde et tous les mondes me ressentent. Quand le soleil et les autres étoiles se seront tous éteints, moi, je brûlerai encore, et tous les morts et tous les vivants éprouveront mon étreinte. Quels que soient les desseins du ciel, la seule certitude est que le dernier mot me reviendra. Tant d'orgueil n'empêche pas l'humilité. Je ne suis rien si l'on ne me ressent pas. Je n'existe pas sans le frisson des autres. Le froid aussi a besoin de combustible. Mon combustible est votre souffrance à tous, pour les siècles des siècles. » J'endurais bravement le froid, non seulement pour partager le sort de ma bien-aimée, mais aussi pour offrir mon hommage à l'artiste universel. Je me relis avec stupéfaction. Ainsi, celui qui, dans quelques heures, va faire exploser un avion chargé d'une centaine de passagers, quand il a l'occasion d'écrire ses pensées ultimes, verse dans le lyrisme le plus éperdu. À quoi bon commettre un attentat si c'est pour la martiniser comme le premier venu? À la réflexion, je me demande si je ne tiens pas là une clé. Ceux qui se lancent dans l'action directe espèrent y trouver une virilité qui leur manque. Le sort du kamikaze pérennisera le malentendu. Des mères illettrées se rengorgeront. Mon fils n'était pas une fillette, c'est lui qui a détourné le Boeing de la Paname. Encore heureux que mes notes périssent avec moi, c'est le genre de secret dont il vaut mieux ne pas se vanter. C'est évidemment Astrolabe que je cherche à épater. Je sais déjà que ce ne sera pas le cas, je vais au-devant de mon échec avec un courage stupide. Parfois, il faut agir même en ayant l'assurance de ne pas être compris. Il est 10h45. Je me réjouis d'avoir le temps de continuer ce récit dans lequel je me sens. Se sentir bien est une ambition absurdement exagérée quand se sentir est déjà si rare. Écrire convoque un important segment du corps. C'est une application physique de la pensée. Depuis quelques semaines, je sais que je vais provoquer un crash aérien. J'organise l'affaire. Ce qui est neuf, c'est que je l'écris. Eh bien, l'écrire, c'est beaucoup plus fort que de le concevoir dans sa seule tête. Le mieux serait de l'écrire après. Hélas, on n'écrit pas d'outre-tombe. Tout le monde le regrette. Il n'y aura sûrement pas de survivants, donc personne ne pourra raconter comment je m'y suis pris. Du reste, c'est peu intéressant. Ils sont énervants avec leurs consignes de sécurité à la noix. En vérité, quelles que soient leurs interdictions, il y aura toujours un moyen facile de détourner un avion. L'unique principe de précaution valable consisterait à supprimer l'aviation. Comment le terroriste de base pourrait-il ne pas rêver d'accéder, d'une manière ou d'une autre, à ces fabuleux engins volants? Terroriste de train, de bus ou de dancing, c'est minable. Le terroriste aspire forcément au ciel. La plupart des kamikazes y aspirent doublement, anticipant leur séjour dans l'au-delà. Terroriste terrestre, cela a un côté marin d'eau douce. Jamais terroriste n'a agi sans idéal. Idéal atroce, idéal tout de même. Que ces nuées soient des prétextes n'y change rien. Sans le prétexte, il n'y aurait pas de passage à l'acte. Le terroriste a besoin de cette légitimité illusoire, particulièrement s'il est kamikaze. Cet idéal, qu'il soit religieux, nationaliste ou autre, prend toujours la forme d'un mot. Koestler dit avec raison que ce qui a le plus tué sur Terre, c'est le langage.